Quasiment 19h21 sur France Inter. Bonsoir Hélène Jouan.
Bonsoir Sébastien.
Au téléphone sonne ce soir, le Front National a-t-il les moyens de gouverner en cas de dissolution?
Parlez-moi de vous. Pourquoi avez-vous choisi cette branche? Qu'est-ce qui représente pour vous un défi à relever? Que pouvez-vous apporter à cette entreprise?
Alors écoutez, je vais être honnête avec vous. J'hésite entre vous et un ex de la NASA.
Parti qui a le vent en poupe cherche hommes et femmes d'expérience capables de diriger un pays. Le FN recrute tout azimut et pour cause, Marine Le Pen s'y voit déjà. Tout en haut de l'affiche sur la première marche du podium en 2017 et même avant, dans une cohabitation de combat, dit-elle, avec François Hollande. L'hypothèse relève pour l'instant de la politique fiction. Vendredi, le président de la République a martelé qu'il irait au bout de son mandat. Mais en cette rentrée politique, la présidente du FN tente d'accréditer l'idée que, quoi qu'il arrive, elle est prête. Prête à gouverner donc, mais avec qui? Malgré des sondages porteurs, malgré ses récents succès électoraux, le FN a-t-il réussi sa métamorphose? Passer d'un parti de contestation à un parti de gouvernement? Qui pour être ministre? Qui pour diriger les cabinets? Qui pour mettre en œuvre l'autre politique que le Front National revendique? Marine Le Pen fustige les élites, mais n'en manque-t-elle pas au FN? J'attends vos questions au 01 45 24 7000 sur les réseaux sociaux franceinter.fr. Facebook et sur Twitter, hashtag Telson.
France Inter, Hélène Jouan, le téléphone sonne.
Bienvenue à tous dans le téléphone sonne. Alors, nos invités pour répondre à vos questions ce soir. En studio avec moi, Nicolas Bay, secrétaire général adjoint du Front National, député européen. Bonsoir.
Bonsoir.
En duplex de France Bleu Roussillon, Nicolas Lebourg, historien, spécialiste des extrêmes droites, chercheur attaché à l'Université de Perpignan, où vous êtes donc en direct de Perpignan. Bonsoir.
Bonsoir.
Je remercie du coup l'équipe technique évidemment de France Bleu Roussillon d'assurer ce duplex. Et puis en studio également avec moi, Nasser Madji, du service politique de France Inter, en charge notamment ici à France Inter du Front National. Bonsoir Nasser.
Bonsoir Hélène.
France Inter. Intervenez.
Intervenez au 01 45 24 7000. Première question qui nous vient de Florent. Florent, vous nous appelez de Nîmes. Bonsoir.
Oui, bonsoir.
Bienvenue, on vous écoute.
Merci, je vous remercie de prendre ma question. Eh bien, je voulais prendre le contre-pied. Et d'abord, avant de se poser la question de savoir si le Front National est un parti de gouvernement, je voulais poser la question, mais les partis de gouvernement, dits de gouvernement, sont-ils réellement des partis capables de gouverner et qui répondent aux attentes et aux engagements pris devant les citoyens? Je précise évidemment que pour moi, c'est ce qui expliquerait qu'on se pose la question d'aujourd'hui, savoir si le Front National sera au gouvernement, mais je ne suis absolument pas un défenseur et je suis au contraire quelqu'un de très engagé contre le Front National.
Mais ce que vous dites, Florent, en quelques mots, c'est qu'en gros, c'est les autres ont échoué et aujourd'hui ne peuvent plus assumer cette identité de parti de gouvernement, c'est ça?
Je crois que les gouvernements, et je pense de droite comme de gauche que nous avons eu récemment, n'ont pas répondu aux attentes très fortes des citoyens et que c'est en partie cela qui pousse les gens vers le Front National et qui ne montre pas non plus finalement un visage de capacité de gouvernement et du coup ça les disqualifie un petit peu par rapport aux partis comme le Front National.
Merci Florent. La réponse de Nicolas Bay. Nicolas Bay, les autres disqualifiés, est-ce que pour autant ça vous donne une crédibilité vous pour gouverner?
Je crois que c'est une vraie question de savoir est-ce que le Front National aujourd'hui, parce que les Français sont de plus en plus nombreux à se tourner vers lui, parce que nous avons une capacité d'attraction très forte sur des Français déçus de la droite, déçus de la gauche, qui nous rejoignent et nous ont déjà rejoints au cours des scrutins de 2014. Donc la question de la capacité qu'a le Front National ou non à gouverner, c'est une vraie question. On y reviendra dans quelques instants. Mais ce qui est certain, comme le dit votre auditeur, c'est que aujourd'hui, on a en tout cas une certitude, c'est que l'UMP comme le PS sont incapables de gouverner, en tout cas en servant les intérêts de la France et de notre peuple, incapables de mener une autre politique que celle dictée par la grande finance et par Bruxelles, incapables aussi, on l'a vu dans les cafouillages gouvernementaux à répétition au cours des derniers mois, incapables même de mener l'appareil d'État, l'appareil administratif de la France. Donc non seulement on a un problème de cap politique, c'est-à-dire que ceux qui gouvernent n'entendent pas le peuple français, mais de surcroît, ils font preuve à bien des égards d'un grand amateurisme. Et je crois que le Front National aujourd'hui, et depuis maintenant plusieurs années, se prépare prépare à exercer les responsabilités.
Se prépare, mais y êtes-vous prêt? On va y revenir évidemment. Nasser Majid, France Inter.
C'est évident qu'il y a une crise politique majeure. On est en train de la traverser depuis plusieurs mois maintenant. On voit bien que l'exécutif est extrêmement critiqué. François Hollande est au plus bas dans les sondages, que la droite est en train de se recomposer. Le front de gauche également a beaucoup de difficultés pour émerger. Donc effectivement, le Front National, on le dit souvent, a un boulevard devant lui, mais dans le même temps, c'est évident qu'il y a une stratégie qui, depuis l'accession de Marine Le Pen à la présidence du Front National, a été mise en place depuis 2011. Et le Front National aussi travaille, ne fait pas que profiter d'une certaine paisible et tranquille du contexte politique.
Travaille au recrutement, à la formation,
travaille sur plein de points de vue, effectivement. Une stratégie médiatique, une stratégie de formation des cadres également. Et puis, effectivement, toujours en essayant d'enfoncer le clou avec, classiquement, la position anti-système et tribunicienne de Marine Le Pen.
Alors justement, Nicolas Lebourg, je rappelle que vous êtes historien et spécialiste des extrêmes droites. Vous êtes en direct avec nous de Perpignan. On l'a dit, le Front National bénéficie aujourd'hui de fait d'une vraie désillusion, d'un rejet même de la classe politique. Pour autant, est-ce que vous diriez aujourd'hui qu'il a les ressources humaines quand Marine Le Pen dit « je suis prête », est-ce que le FN est prêt à gouverner selon vous ?
Il y a deux choses dans votre question. D'abord, ce rejet, il n'est pas neuf. Ça fait 10 ans que les enquêtes d'opinion démontrent que les Français, les sondés, rejettent à 80% les partis politiques. L'UMP et le Parti Socialiste sont en risque de présenter les deux présidents les plus impopulaires de l'histoire de la Ve République en 2017. Forcément, le Front National sait là-dessus utiliser cette situation et ne peut qu'en profiter. C'est tout à fait rationnel. Maintenant, la situation, elle n'est pas si simple parce que c'est vrai que d'une part, le Front National, il manque de technocrates, il le sait très bien, d'où ses appels du pied de Marine Le Pen. D'un autre côté, je ne suis pas persuadé que pour nombre d'élections, les Français ne soient pas justement tellement las de ces technocrates que lui présenter autre chose ne les intéresse pas.
Alors justement, Marine Le Pen était ce week-end à Fréjus pour l'université d'été des jeunes du Front National. Et donc elle a répété qu'elle était prête à gouverner en cas de cohabitation et prête à gouverner plus tard. Et elle a eu tout un dégagement, vous allez l'entendre, sur les élites. Écoutez-la.
Chez nous, il ne faut pas avoir fait ses classes à la banque Rothschild pour parler d'économie. Chez nous, il n'est pas nécessaire d'être énarque pour donner son sentiment sur la réforme territoriale. Chez nous, toujours, il n'est pas indispensable d'être un technocrate du Quai d'Orsay pour parler de politique étrangère. Au Front National, nous ne faisons pas de distinction entre les experts et le peuple, car pour nous, les experts, c'est le peuple.
Nicolas Bay, secrétaire général adjoint du Front National, c'est pas un peu caduc ça comme discours quand effectivement le but est d'être un parti de gouvernement ?
Non, je crois qu'au contraire c'est un vrai discours de vérité parce que ce qui est rejeté aujourd'hui par les Français, c'est des appareils politiques, des représentants de l'UMP et du PS qui apparaissent comme défendant leurs petits intérêts et non ceux du peuple. Mais c'est aussi, c'est vrai, toute une technocratie française, technocratie européenne.
Mais vous rêvez qu'elle vous rejoigne cette technocratie ?
Non.
Vous n'allez pas la chercher ?
Non, nous ne cherchons pas
à ce
qu'ils nous rejoignent. Nous pensons simplement qu'il y a aussi bien dans l'appareil administratif de la France, c'est-à-dire parmi les fonctionnaires et parmi les hauts fonctionnaires, nous sommes convaincus qu'il y en a beaucoup qui veulent servir leur pays et qui se mettraient d'ailleurs volontiers au service d'un gouvernement Front National. Nous avons d'ailleurs des contacts dans tous les ministères, dans la plupart des administrations.
Contacts cachés quand même. Ils ont du mal aujourd'hui à dire on travaille pour le Front National.
Oui, pourquoi ? Parce qu'ils ont peur de représailles. En Union soviétique aussi, je pense que les fonctionnaires d'État, ils étaient discrets lorsqu'ils n'étaient pas d'accord avec le pouvoir.
Enfin, on n'est pas en Union soviétique.
Non,
quand
mais
même.
Ce
on
que je veux dire par là, c'est
ce qui n'est pas tout
non,
à fait comparable.
Sauf que ce que je veux dire par là quand même, c'est qu'il y a, c'est vrai, au sein de l'administration française, une pression exercée par les responsables politiques pour que les fonctionnaires, évidemment, ne soient pas tout à fait à l'aise dans leurs faits et gestes. Et c'est vrai qu'il y a des fonctionnaires qui seraient prêts à travailler avec nous, qui nous le disent, qui nous donnent des informations, etc., sur la situation de la France, et qui, évidemment, pourraient travailler avec nous dans les collectivités territoriales. Ça a été le cas, d'ailleurs, dans les villes ville que nous avons gagnée. Nous avons des fonctionnaires des collectivités locales, conseillers régionaux, conseillers généraux ou mairies qui ont rejoint les équipes municipales du Front National dans un certain nombre de communes. Donc moi, je ne suis pas du tout inquiet là-dessus, mais ce dont nous avons besoin en France, c'est d'abord d'avoir une élite politique qui fasse le bon constat de la situation de la France.
Or, oui, sauf que...
Et ensuite, qui apporte des bonnes solutions. Or, aujourd'hui, on a des responsables politiques et avec eux, c'est vrai, un certain nombre de hauts fonctionnaires qui n'ont pas une lucidité réelle sur la situation de la France et n'entendent pas le peuple français. On l'a vu de façon flagrante, je termine, aux élections municipales européennes. Le soir, à chaque soirée électorale, alors que les Français ont adressé un message extrêmement clair sur le fond, sur le rejet de l'immigration massive, sur leur inquiétude face à l'insécurité,
le rejet de l'austérité. Le but de cette émission, ce n'est pas de reprendre la dénonciation effectivement du FN, que l'on connaît, qui visiblement porte ses fruits, puisque vous avez été porté en tête lors des dernières européennes. C'est de voir si effectivement vous êtes en capacité aujourd'hui d'avoir des candidats à l'Assemblée nationale, d'avoir des gens... pour rentrer dans les ministères, des cabinets.
Vous parliez effectivement d'experts. Marine Le Pen disait à l'instant, avec son sens de la formule, les experts, c'est le peuple. Mais en même temps, et là, il y a quand même une contradiction, c'est que le Front National n'hésite jamais à montrer ses experts, à les rendre visibles. Émeric Choprade, par exemple, qui est un expert en géopolitique, ou Philippe Murer, qui est un proche de Sapir, l'économiste, qui
vous les affichez comme des prises de guerre, objectivement.
Absolument, oui,
Ce sont indéniables. Des experts,
Monsieur
des gens
Philippot,
qui ont une vraie...
Félena, voilà
non, mais nous avons des personnes de grande qualité, de grande compétence, qui seraient à même de composer un gouvernement, par exemple, demain, si les Français se tournent vers nous et nous confient les manettes. Mais ces experts...
C'est ça la question, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup, quand même. C'est la question qu'on vous pose aujourd'hui. C'est qu'on en connaît 3, 4, 10, quand on est spécialiste, effectivement, comme Nasser Madjid du Front National.
Ce sont des experts qui ne sont pas tous connus, non plus du grand public, mais ça, on peut les faire connaître rapidement. Et surtout, ce qui est important, c'est que ce sont des experts qui font partie du peuple. Bien sûr que ce sont des gens qui ont acquis une compétence professionnelle dans tel ou tel domaine qui les rendrait légitimes pour exercer des responsabilités gouvernementales. Je pense que Émeric Choprade serait capable, par exemple, d'être ministre des Affaires étrangères. Je pense que Gilbert Collard pourrait faire un ministre de la Justice. Je pense que des gens comme Bernard Monneau ou Jean-Richard Sulzer seraient capables d'exercer
des
responsabilités à Bercy. Je crois que ce sont leur qualité principale, c'est bien sûr d'avoir des compétences techniques, mais c'est aussi d'être en phase avec les préoccupations du peuple. Et on ne peut pas en permanence décorréler les élites et le peuple. C'est ce que fait l'UMPS et c'est ce qui les conduit à un échec total.
On retourne au standard du téléphone sonne avec l'appel d'Emmanuel qui nous appelle de PACA. Bonsoir.
Oui, bonsoir. Tout d'abord, je voudrais vous remercier pour la qualité de vos émissions.
Merci.
Je vous appelle parce que je vous posais une question. Alors moi, ce n'est pas dans le cadre d'une dissolution et d'une cohabitation, mais dans le cadre plus général d'une présidentielle. Je me posais la question de savoir, parce qu'on parle beaucoup de l'élection possible, de la candidature possible de Marine Le Pen, et j'aurais aimé savoir, parce que pour moi, je ne vois pas comment elle pourrait avoir une majorité législative derrière l'élection présidentielle, et je voudrais savoir... quels seraient ses pouvoirs, qu'est-ce qu'elle pourrait faire, et si c'est pas tout simplement, si c'est pas un petit peu fantomatique comme projet, quoi, voilà.
Alors, on imagine effectivement, comme Emmanuel, que Marine Le Pen est élue présidente de la République, mais elle n'a pas de majorité à l'Assemblée nationale. Comment fait-elle ?
13,6 aux dernières législatives, le Front National. C'est 3 500 000 voix.
Oui, enfin 25% aux dernières élections européennes. Oui, mais je crois qu'il y a une logique institutionnelle qui fait que lorsque les Français choisissent un président de la République, eh bien ils lui donnent ensuite une majorité. Ce qui est vrai, c'est qu'on a un mode de scrutin aux élections législatives, un mode de scrutin majoritaire à deux tours, qui avait été conçu pour écarter le Front National de la vie politique parlementaire et qui jusque-là a permis en effet d'ailleurs d'écarter le Front National, mais c'est pas dit que ça continuera. Je crois que si il y a une majorité de Français qui votent pour Marine Le Pen au deuxième tour de l'élection présidentielle, ils seront aussi une majorité à faire élire des députés du Front National, d'autant plus que le Front National, et ça nous renvoie au débat précédent, a aujourd'hui une vraie implantation locale, un vrai maillage territorial. Je conviens volontiers que ce n'était pas le cas il y a encore 2 ou 3 ans. Mais aux dernières élections municipales en mars, nous avons fait élire plus de 1600 élus municipaux partout en France. Il n'y a pas une région en France où il n'y a pas des élus municipaux du Front National. Non, je crois que ce n'est pas du tout négligeable. Nous avions des listes dans la moitié des communes de plus de 10 000 habitants, dans quasiment toutes ces villes, nous avons eu des élus municipaux. Ce sont des élus municipaux qui désormais travaillent sur les dossiers, sont en capacité peut-être dans 6 ans de gagner ces villes. Nous avons gagné une dizaine de villes, ça aussi c'est important, ça n'a pas une valeur que symbolique. Nous nous plaçons aujourd'hui dans cette logique de conquête du pouvoir, d'exercer les responsabilités. Alors c'est vrai que c'est un travail continu. Ce que je voulais vous dire, c'est que lorsque le Front National a 25% des voix aux élections européennes, lorsque Marine Le Pen est donnée potentiellement gagnante à l'élection présidentielle, nous...
C'est un sondage, on a 3 ans du vote.
Oui, bien sûr, et nous le vivons d'abord comme une exigence, parce que nous voyons que les Français se tournent vers nous, nous voyons qu'ils sont lucides maintenant sur la situation de la France et qu'ils voient que le Front National propose des solutions. Je crois que le Front National aussi a gagné en visibilité dans son programme. Il y a des aspects entiers du programme du Front National qui, jusqu'à il y a quelques années, étaient un peu méconnus des Français. Aujourd'hui, je crois que nous avons une vraie audibilité sur les questions économiques et sociales, notamment, et tout ça nous amène à considérer que c'est une exigence. Voilà, les Français se tournent vers nous, nous entendons nous préparer le plus rapidement possible pour être prêts. Et si dans les mois ou les années qui viennent, les Français nous portent au pouvoir, eh bien le Front National gouvernera et gouvernera évidemment mieux que l'UMPS.
Nicolas Lebourg, est-ce qu'effectivement Marine Le Pen est prête à gouverner ? C'est la question qu'on se pose depuis le départ. Est-ce qu'elle devra faire des alliances ? Est-ce qu'elle est en situation aujourd'hui aussi de faire des alliances ?
Alors pour répondre à votre auditeur, effectivement, les choses sont quand même assez claires. Il y a un député Front National aujourd'hui.
Deux, si on compte effectivement Gilbert Collard qui a l'étiquette Rassemblement Bleu Marine.
Gilbert Collard qui échange des mots un peu amers avec Jean-Marie Le Pen, président d'honneur du parti, à travers les médias. Nous comptons Marion Maréchal Le Pen en député en quarté.
Et vous n'avez pas l'impression qu'au PS aussi, ils échangent des mots amers entre eux ?
Oh, ce n'est pas mon question, cher monsieur. Si on compte ce que disait Nicolas Bay a raison, le Front National s'est présenté dans de nombreuses villes, mais il y a beaucoup d'endroits sur ce qu'est cette question du maillage territorial. Marine Le Pen pouvait, dans certaines villes comme Port-la-Nouvelle, faire plus de 25% en 2012 et il n'y a pas eu de liste municipale en 2014. Donc le maillage territorial, il n'est pas fini. C'est un parti à qui reste encore beaucoup de travail sur cette question du maillage. Et effectivement, des législatives, ça se gagne avec un maillage local, ça se gagne avec des clientèles. Donc il y a ces vraies difficultés d'un côté pour le Front National et pour Marine Le Pen. De l'autre côté, il faut bien admettre aujourd'hui, le Front National est en capacité d'aller chercher ses notables parce qu'il peut être un accélérateur de carrière. Vous évoquiez M. Philippot des Zénards, qui en a plein les tiroirs de l'UMP et du PS. Il prend la carte au Front National, il devient numéro 2 en 2 temps, 3 mouvements. Ça, il n'y a que le Front National aujourd'hui qui peut vous permettre de faire des carrières extrêmement rapides et devenir un accélérateur de carrière pour des petits notables. Et ça va pouvoir lui permettre d'améliorer les choses.
Ça s'appelle de l'attractivité, effectivement, à un moment donné. D'autres partis ont pu en bénéficier à d'autres moments. Questions et réactions sur Twitter, hashtag Telson. Si les experts sont le peuple, pourquoi recruter des grands noms à tout va ? On revient à la question précédente. Pourquoi aller chercher des Florian Philippot ? Pourquoi aller chercher
des Philippe Murer ou
des Émeric Choprade ? Telson également, Luc Ajaccio. Bonjour. En 1981, la gauche n'avait jamais gouverné. Le programme avait des faiblesses. Pourtant, cela a changé la France. Donc, visiblement, Ajaccio est plutôt serein sur la suite des événements pour vous. Je vous propose une autre question qui vient du Standard. Nabaïja qui nous appelle de Bordeaux. Bonsoir.
Oui, bonsoir.
Je vous écoute. Posez votre question. Bienvenue.
Oui, alors tout d'abord un constat. Je fais partie des personnes qui ont milité contre l'émergence du Front National en France. Et à l'époque, dès 1983, quand on a vu arriver la vague Front National, la vague nationaliste raciste fasciste, j'ai fait partie avec plusieurs mouvements, dont Ras Gentil Front, Ras Front, etc., pour éviter que les idées du Front National s'implantent en France. Aujourd'hui, le constat, il est amer pour tous les démocrates, pour tous les enfants issus de l'immigration dont je fais partie, d'avoir à témoigner dans une émission telle que celle-là. Le Front National a antenne micro ouvert dans des médias nationaux. Vous, à France Inter, vous essayez d'amener les choses le plus objectivement possible et cette émission y participe, merci. Mais il y a d'autres médias qui, malheureusement, ne font pas votre travail. Moi, la question que je me pose aujourd'hui, on sait qu'en réalité, ce n'est pas le gouvernement de la France, qu'il soit de droite ou de gauche, UMP ou PS, qui décide de la vie des Français, mais bien l'Europe. La question que je me pose, c'est est-ce que les gens votent ou veulent amener le Front National au pouvoir parce qu'ils sentent dans ce pouvoir, les seuls en capacité de résister à l'Union européenne, aux technocrates de l'Union européenne et aux lois parfois aberrantes, aux directives parfois aberrantes de l'Union européenne.
Merci Baïja pour votre témoignage. Nicolas Bay, vous avez l'impression qu'effectivement votre plus grande attractivité aujourd'hui, elle vient de votre discours sur l'Europe ?
Je crois qu'il y a une cohérence surtout. Il y a une cohérence dans le discours du Front National. Parce que ce que nous disons aux Français, c'est qu'il faut sortir du carcan de l'Union européenne. Il faut sortir de cette prison qu'est Bruxelles, qui impose des directives européennes et avec une Assemblée nationale qui est réduite pour l'essentiel de son activité à transposer dans la loi française ces directives européennes. Et ces directives européennes, elles sont décidées par les commissaires européens, par la Commission européenne, c'est-à-dire une instance technocratique non élue, sans légitimité populaire. Donc je crois que c'est un vrai problème. Et nous sommes les seuls d'ailleurs à dénoncer avec clarté cette Union européenne telle qu'elle a été construite, qui porte très gravement atteinte à nos libertés fondamentales et à notre liberté de nation, c'est-à-dire à notre souveraineté. Voilà, nous voulons retrouver notre liberté, retrouver la maîtrise de notre destin et donc sortir de cette Union européenne, renégocier les traités européens et fonder l'Europe sur une coopération libre entre des nations souveraines. Votre auditrice était, ça m'a plutôt fait sourire, mais elle a été très insultante à l'égard de 25% des Français. Ça ne se fait pas. Elle a le droit de ne pas être d'accord avec le Front National. Nous sommes évidemment favorables au débat démocratique, mais on ne peut pas comme ça insulter.
Elle a le droit de dire effectivement que ça fait 25 ans qu'elle se bat contre vous.
Non, mais ça, elle a le droit de se battre contre nous. Mais ce qui n'est pas acceptable, c'est de dire que c'est des fascistes et des racistes. C'est-à-dire, c'est une insulte pour 25% de nos compatriotes qui ne sont pas des extrémistes.
Et les gens au Front National qui ont été condamnés effectivement pour racisme. Donc ça ne veut pas dire que tout le Front National est raciste.
Oui,
enfin,
pourquoi ? Parce qu'on a
certains,
des lois.
Certains ont été condamnés
parce qu'on a des lois,
à ce titre-là.
Parce qu'on a des lois qui portent très gravement atteinte à la liberté d'expression.
Mais la loi
en France.
Est normalement, il faut la respecter.
Oui, bien sûr, et c'est ce que nous faisons. Mais en même temps, nous voulons dire la vérité que ressentent les gens. Quand on ne peut pas parler d'immigration librement parce que la loi l'interdit, parce que M. Guesso, dans une démarche stalinienne, a fait adopter une loi qui porte atteinte aux libertés fondamentales, c'est à la liberté d'expression, eh bien, c'est pas normal. Nous voulons dire.
Ce sera une des premières mesures, celle du gouvernement Marine Le Pen.
Pas forcément une première mesure, mais ce
Guesso.
Sera une des mesures, en effet, pour que la liberté d'expression soit rétablie en France. Et nous voulons, nous, dire ce que pensent vraiment les gens, ce que ressentent les gens sur l'immigration, comme sur tous les autres sujets. Pour nous, il n'y a pas de tabou. Sur le maillage local, un tout petit instant. C'est vrai qu'il est en cours. C'est vrai qu'il n'est pas terminé. C'est vrai que nous n'avions pas des listes dans toutes les communes de France. Mais c'est un travail qui est bien avancé, qui va se poursuivre d'ailleurs avec les élections départementales et régionales de 2015. Je pense qu'aux élections départementales, avec les 2000 cantons nouvellement découpés par M. Valls, eh bien, il y aura, je crois, des candidats du Front National dans la totalité de ces cantons. Ce sera la preuve que nous aurons, en tout cas, à échéance de la fin d'année 2015, un maillage territorial complet.
Nicolas Lebourg, donc en direct de Perpignan, historien et spécialiste des extrêmes droites.
Alors, deux choses. La question sur l'Europe, je crois que c'est une très bonne question. Juste une chose, je crois que M. Bay a dit loi Guesso. La loi Guesso, c'est celle qui punit le négationnisme, la négation de crimes contre l'humanité. Je crois que sa langue a fourché et que ce n'était pas ce qu'il voulait dire, qu'il voulait parler de la loi Pleven de 1972.
C'est les deux, en fait. Hein. C'est les deux qui interdisent de parler librement de l'immigration massive ou de l'islamisation de la France. Et c'est absolument scandaleux et c'est ressenti comme tel par une majorité de Français.
Donc la loi Guesso, ok. Sur la question de l'Europe, effectivement, une des forces du discours du Front National aujourd'hui, c'est d'arriver à présenter l'Union européenne et le Parti socialiste au pouvoir comme étant un bloc représentant tout à la fois le libéralisme économique, la mondialisation et le libéralisme culturel. Et là, ça va selon l'émetteur du mariage pour tous à la question de l'immigration. Et ça, ce bloc-là, ce bloc libéral, face auquel aujourd'hui le discours du Front National, ce n'était pas le cas avant, pas de manière aussi cohérente, arrive à présenter un discours qui est celui d'un souverainisme intégral, où effectivement, sur les questions économiques, sociales, politiques, culturelles, le FN répond par ce thème de la souveraineté. Il n'y a plus ces ambiguïtés du libéralisme économique, tel qu'il y a quelques années, etc. C'est ce discours-là qui est très fort, parce que si on regarde depuis 20 ans les résultats électoraux en France, on voit bien qu'il y a un rejet classique, bon, qui remonte encore plus loin dans la société française, du libéralisme. Hein, je veux dire que ce soit... Vous savez, même en 2007, celui que cite le plus Nicolas Sarkozy, c'est Jean Jaurès. Vous vous rappelez du résultat du traité constitutionnel européen, la France n'est pas un pays où le libéralisme a très bonne presse. Et là, il y a une progression dans la cohérence qui est très forte de la part du Front National et qui fait que c'est une offre politique. Jusque-là, Le Front National répondait à une demande politique, c'était plutôt la sociologie urbaine, la sociologie économique qui faisait voter FN. C'est nouveau de sa part d'avoir une offre, n'en demeure pas moins, et je finis là-dessus, sur cette question à la fois du maillage et de l'offre politique. Le politiste Joël Gombin a très bien montré, la carte du Front National, c'est la carte des villes où la répartition des richesses est la plus inégalitaire. Il y a un indice qu'on appelle l'indice de Gini. Plus les richesses sont réparties de manière inégalitaire, plus on vote FN. C'est donc bien une question qui est à la fois une question sociale et une question culturelle. Qu'est-ce qui fait qu'on est ensemble? Qu'est-ce qui fait qu'il y a des hiérarchies méritées ou pas méritées, etc. Et là-dessus, aujourd'hui, le FN a un vrai discours.
France Inter, le téléphone sonne. Intervenez 01 45 24 7000 sur la page Facebook du téléphone sonne et sur Twitter avec le hashtag Telson.
19h45 sur France Inter, nous sommes toujours en compagnie de Nicolas Bay, secrétaire général adjoint du Front National, député européen, en compagnie de Nicolas Lebourg, donc en direct de Perpignan, chercheur et spécialiste de l'extrême droite, et de Nasser Madji du service politique de France Inter, spécialiste du Front National ici à France Inter. Un mot pour revenir à notre question de départ, est-ce que le Front National aujourd'hui, demain, sera en capacité de gouverner ? Un mot parce que depuis le mars dernier, le Front National dirige 11 villes, 12 si on compte Robert Ménard, qui est juste soutenu par le Front National. C'est évidemment trop tôt pour faire un bilan. On est à 6 mois effectivement de mandature pour les uns ou pour les autres, sauf que certains maires FN se sont déjà illustrés en quelque sorte en semant la zizanie ou en récoltant en tout cas la zizanie au sein de leur propre majorité municipale. C'est le cas de Fabien Angelman qui est maire d'Ayange. Alors il se trouve qu'il a été accusé par sa première adjointe de ne pas lui avoir remboursé certaines avances de campagne, il l'a limogé, et aujourd'hui 2 autres adjoints FN chargés du culture et de transport sont dans son collimateur, écoutez-les.
C'est vrai, on ne nous a jamais vus à l'œuvre, c'est certain. Nous n'avons pas, comme au Parti Socialiste, officiellement un nombre considérable d'adhérents aux fonctionnaires venus des écoles les plus grandes de la République, etc., etc. Mais nous savons qu'ils sont là. Et nous savons aussi que la haute fonction publique, que la fonction publique française, parfaitement légitimiste, parfaitement républicaine, et quand, si nous sommes élus, elle travaillera évidemment avec nous.
Alors, il ne s'agissait pas du tout des ex-adjoints de Fabien Angelman. Il s'agissait du trésorier du Front National, Valrand Saint-Just, qui disait qu'effectivement, pour l'instant, il n'y avait pas grand monde de prêts, mais qu'il était convaincu que la haute fonction publique, une fois que le Front National serait arrivé au pouvoir, suivrait parce qu'elle était légitimiste. C'est votre conviction aussi?
Oui, et puis je crois surtout que la haute fonction publique, elle est là pour exécuter les politiques qui sont décidées par le peuple, par les urnes. Et par conséquent, qu'elle se mettent au service du Parti Socialiste quand c'est le Parti Socialiste qui est au pouvoir, c'est normal. Lorsque c'était avec l'UMP précédemment, c'est normal. Et quand ce sera avec le Front National, ce sera normal aussi. Et ce qui serait extrêmement choquant, c'est qu'on ait des hauts fonctionnaires qui se départissent de leur devoir de réserve et refusent de faire leur travail.
La désobéissance civique, ça existait dans l'histoire.
Il y en aura peut-être quelques-uns, mais ce sera sans doute anecdotique.
Nasser Madji, pardon, pour revenir donc sur le...
Sur les municipalités, le
début de bilan, parce qu'objectivement, c'est un bilan pour personne, 6 mois. Mais ça montre quand même que c'est assez compliqué aujourd'hui. Ces élus étaient là.
On a des indicateurs.
Ces élus étaient là pour renforcer la crédibilité du Front National.
Le Front National,
c'est le cas.
C'est pas forcément ce qui se passe. Par exemple, Fabien Angelman, qu'est-ce qui se passe à Ayange?
Alors, à Ayange, il y a, semble-t-il, un différend de personnes entre Fabien Angelman et quelques membres de son équipe municipale. Apparemment, 3 personnes sur 30. Bon, qu'il y ait des différentes personnes et qu'ils soient réglés en début de mandat plutôt qu'en cours de mandat, c'est peut-être pas forcément plus mal. Voilà, je crois que c'est anecdotique et ça existe partout, dans toutes les organisations humaines, dans tous les partis, dans toutes les mairies, dans toutes les entreprises. Je crois que c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que dans les villes Front National, très rapidement, il y a un certain nombre de mesures qui ont été prises pour améliorer de façon concrète, immédiate, le sort de nos compatriotes. Hélène Beaumont baisse des impôts dès le vote du budget, c'est-à-dire un mois après l'élection. La même chose à Beaucaire, l'amélioration de la sécurité.
Pour vous, c'est des porte-drapeaux, il n'y a pas de problème.
Non, je ne suis pas en train de vous dire que nous avons une conception, que nous concevons nos mairies comme des laboratoires. Pas du tout. Nous avons des élus, des maires qui ont été élus. Et nous, évidemment, le Front National les soutient, les appuie, les conseille, mais leur laisse une totale liberté, bien sûr, parce que c'est eux qui ont été choisis par les électeurs et nous respectons, évidemment, le choix des Français. Mais concrètement, ils ne cherchent pas à faire de l'idéologie, ils ne cherchent pas à appliquer des idées qui seraient des idées qu'on pourrait appliquer au niveau gouvernemental. Ils cherchent simplement à appliquer le programme sur lequel ils ont été élus, c'est-à-dire améliorer la sécurité, baisser les impôts, baisser l'endettement, améliorer la qualité de vie dans ces villes et mettre fin, par-dessus tout, au clientélisme qui caractérise trop souvent la gestion des villes par l'UMPS.
Alors, je vous cite quelques exemples. L'arrêt de la gratuité des cantines au Pontet, l'arrêt d'un partenariat concernant un centre social à Fréjus, la suppression ou la baisse de subventions, les drapeaux européens qu'on enlève. On est quand même dans le politique, on est parfois aussi dans l'idéologique. La hausse des salaires pour des maires qui entendent désendetter la ville, ça s'est passé également au Luc. C'est vrai qu'il y a eu 10% de baisse de la taxe d'habitation à Hénin-Beaumont, par exemple, mais il y a encore une fois des marqueurs qui paraissent assez différents d'autres gestions municipales.
Mais je crois que c'est normal qu'on mette de l'ordre aussi dans les villes dans lesquelles les Français nous ont fait confiance. Par exemple, s'agissant, pour éviter la fraude sociale, qu'il y ait un tarif minimal qui existe pour les cantines, c'est pas aberrant. Par exemple, qu'en matière de subvention, on soit rigoureux avec l'argent public. Lorsque nous avons le pouvoir d'achat des Français qui s'effondre, qu'il y a des classes populaires qui payent des impôts comme elles n'en ont jamais payé dans le passé, c'est normal que cet argent public ensuite soit utilisé avec beaucoup de mesures, beaucoup de prudence. C'est insupportable de voir des collectivités locales, des mairies, des conseils généraux, des conseils régionaux qui dilapident parfois des centaines de millions d'euros à tort et à travers, ce qu'ils ne feraient jamais avec leur argent, mais ils le font uniquement parce que c'est de l'argent public. Les subventions aux associations, eh bien, ça doit obéir à des critères qui sont très clairs. Il ne s'agit pas d'acheter la paix civile dans les quartiers, de financer les grands frères pour calmer les petits frères. C'est parce que la politique de la ville qui engloutit des millions et des millions d'euros tous les ans, c'est ça dont il s'agit. Il s'agit que de soutenir les associations qui travaillent utilement à la vie, à l'amélioration de la vie de nos concitoyens dans ces villes. Et donc, s'il y a des associations qui répondent à ces critères, elles sont soutenues. S'il y a des associations qui ne participent pas réellement de l'intérêt général, qui défendent des intérêts particuliers, voire communautaristes, eh bien, il n'y a pas de raison qu'ils bénéficient de soutien public.
Nicolas Lebourg,
et c'est ce que les Français attendent, encore une fois. Ils n'attendent pas que les mairies Front National soient dirigées comme les mairies UMP ou PS. Ils attendent au contraire que nous ayons une gestion rigoureuse de l'argent public et que l'argent public local soit utilisé au service des Français.
Nicolas Lebourg, en direct de Perpignan. Est-ce que le Front National peut effectivement aujourd'hui s'appuyer sur ces 11 maires qui ont été élus en mars dernier? Est-ce que c'est une bonne vitrine pour le Front National?
Pour le Front National, c'est une question importante. Je vais vous faire un tout petit détour dans le temps, vous allez voir pourquoi. Quand le Parti communiste français faisait très très peur dans les années 50 à une bonne partie de la population, il a su inventer le communisme municipal. Et les grands discours sur le totalitarisme soviétique venaient s'écrouler sur le fait que l'instituteur était votre conseiller municipal, sur le fait qu'on s'occupait de la voirie, etc. Et ça a été dans la grande force du Parti communiste. Donc quand on vous questionne au niveau national, c'est important d'avoir un ancrage municipal pour vous crédibiliser au national,
c'est
pour vous normaliser.
C'est la dédiabolisation qui passe effectivement par les municipalités.
C'est l'essentiel. Et c'est essentiel aussi, une fois de plus, pour attirer par exemple des petits notables locaux qui vont là aussi vous normaliser, parce qu'effectivement, si l'élu, c'est l'instituteur qui s'occupe de vos enfants, bah vous n'avez pas peur. Donc ça, c'est vraiment, ça vous permet de garder les gens chez vous, ça vous permet de vous normaliser, c'est très très important. Alors la stratégie, quand Nicolas Bay disait, c'est pas de faire des villes laboratoires, c'est tout à fait ce qui avait été défini. Steve Bruyol, secrétaire général du Front National, aujourd'hui maire d'Hénin-Beaumont, était très clair, il ne s'agit pas de refaire Vitrolles, il s'agit d'arriver avec des bons bilans pour que Marine Le Pen, en 2017, puisse dire, vous voyez, la gestion FN, ça marche, ça devait être le thème. Bon, 6 mois, c'est trop court pour faire un bilan, vous l'avez dit. Il est quand même très clair, n'importe qui de bonne foi s'en rendra compte, que quelqu'un comme Steve Bruyol était sans doute beaucoup plus prêt à s'occuper de la mairie d'Hénin-Beaumont que peut-être les maires aujourd'hui du Pontet ou d'Hayange. Voilà.
Anthony, merci Nicolas Lebourg. Anthony nous appelle de la Nièvre. Bonsoir.
Oui, bonsoir.
Bienvenue.
J'avais une question pour votre invité. Vous parliez tout à l'heure, lui parlait des électeurs, des urnes. On connaît tous le système du vote ras-le-bol. Donc je voulais savoir si le Front National pensait que ces électeurs ras-le-bol étaient légitimes. On connaît tous ce procédé. Hein. Souvent, ce sont des Français qui sont plus ou moins concernés par la politique, souvent pas trop, qui choisissent le Front National parce qu'ils sont déçus de la gauche ou déçus de la droite.
Alors, est-ce que les contestataires, est-ce que les seuls contestataires, ça vous fait effectivement des forces vives pour diriger le pays ? Nicolas Bay, secrétaire général adjoint du Front National.
Je crois surtout que le vote Front National aujourd'hui n'est pas du tout un vote purement contestataire. D'ailleurs, on a tendance parfois à opposer le vote contestataire et le vote d'adhésion. En réalité, ça peut être les deux. On peut à la fois rejeter l'UMPS et voter pour le Front National. À l'élection présidentielle en 2012, un sondage a montré d'ailleurs que le premier motif de vote des électeurs de Nicolas Sarkozy, c'était qu'ils ne voulaient pas que la gauche revienne au pouvoir. Le premier motif qui revenait quand on demandait aux électeurs de François Hollande pourquoi ils avaient voté François Hollande, c'était pour que Nicolas Sarkozy soit pas élu pour lui faire barrage. Et le premier motif pour lequel les électeurs de Marine Le Pen avaient avez voté pour elle, c'est pour les idées qu'elle défendait. Donc ça montre que non seulement le Front National aujourd'hui est devenu un vote d'adhésion, mais c'est peut-être le seul vote d'adhésion. Je crois que l'UMP et le PS, installés dans la vie politique, c'est vrai, avec un ancrage local important depuis des décennies et des décennies, bénéficient d'un phénomène d'inertie en quelque sorte. Ils bénéficient encore dans beaucoup d'endroits du vote des Français parce qu'ils ont telle ou telle personnalité que les gens connaissent localement, mais finalement, ils ne sont pas attractifs sur leurs idées, sur leurs projets. Et ils bénéficient souvent d'un vote par défaut dans le cadre de ce qu'ils appellent l'alternance, c'est-à-dire le partage des pouvoirs, un coup l'un, un coup l'autre. Nous sommes l'alternative et nous ne sommes pas simplement un parti de gouvernement. Nous sommes un parti.
Vous n'êtes pas encore un parti de gouvernement.
Je crois qu'on est en train de le devenir, et surtout nous sommes un parti de redressement, parce qu'il ne s'agit pas simplement de continuer à gouverner comme le font les autres. Il s'agit de redresser la France.
Alors deux questions précises,
s'il
vous plaît, Nicolas Bay,
qui sont aujourd'hui devenues vitales.
Deux questions précises qui ont été laissées sur franceinter.fr. Première de Bab: comment le Front National pourrait-il gérer un pays alors que dans toutes les villes passées au FN, la gestion de ces villes s'est avérée catastrophique? Alors là, on ne parle pas, j'imagine, Bab ne parle pas des villes actuelles, mais des villes qui avaient été prises effectivement en 1900 dans les années 90. Ça vous colle à la peau, ça, quand même?
Oui, c'est d'ailleurs faux. C'est d'ailleurs faux parce que quand on regarde de près...
Mais ça n'a pas été des bonnes gestions. Et d'ailleurs, Marine Le Pen s'en est beaucoup, beaucoup, beaucoup éloignée.
Bon, essayons d'être très rapide mais précis là-dessus. C'est vrai qu'il y a eu des erreurs de comportement d'un certain nombre de ces maires, les trois maires de 1995, ça monte maintenant, c'est il y a 20 ans quand même. Hein. D'ailleurs, ils se sont écartés du Front National. Mais sur le plan de la gestion financière pure, ça a été plutôt un succès. Baisse de l'endettement, baisse des impôts...
C'est assez contesté dans les même par
villes.
Les cours régionales
non,
des
non,
comptes.
Non, non, pas du tout.
Parce baisse de l'endettement.
Les rapports des cours régionales des comptes portaient sur la période où la ville était dirigée par le Front National, et donc on leur a fait dire un peu n'importe quoi. Mais quand on regarde de très près, il y a eu une baisse importante à la fois de l'endettement et de la fiscalité locale.
Et pas forcément
dans les villes
du service des eaux, notamment
mais
à Vitrolles.
Cela dit, c'était il y a longtemps. Aujourd'hui, on doit être jugé sur ce qu'est le Front National aujourd'hui, sur les villes que nous dirigeons, et je crois que leur bilan, au bout de quelques mois, est déjà très bon. Il le sera encore plus dans quelques années, parce que c'est vrai que les marges budgétaires sont parfois faibles. Je prends l'exemple du Pontet, petite ville de 10 000 habitants dans le Vaucluse. Le maire se retrouve à gérer une ville avec 16 000 habitants et 50 millions d'euros de dettes. C'est l'ardoise qui a été laissée par son prédécesseur, qui, je crois, était un socialiste. Eh bien, évidemment, nous devons redresser la barre. C'est vrai qu'on ne peut pas, au bout de 6 mois, tout faire. Mais en revanche, je crois qu'au bout de 6 ans, le bilan sera très bon dans
question
la totalité des villes.
Question encore très précise, pardonnez-moi, d'Arthur, laissée sur franceinter.fr. J'aurais voulu savoir en quoi le FN pourrait valoriser ma vie étudiante, sachant qu'il a pour but de sortir de l'Europe et donc de supprimer mes chances de pouvoir effectuer des études à l'étranger.
Alors,
Arthur.
On passe sur le fond, mais je crois que le but du Front National, ce n'est pas de sortir de l'Europe. C'est de prendre en compte la réalité de ce qu'est l'Europe, une communauté de civilisation entre les peuples qui la composent, une réalité qui date de plusieurs siècles et qui n'a pas été construite ni par le traité de Rome, ni
pas de référendum pour dire on reste ou on sort.
Il ne s'agit pas de ça, il s'agit de réorienter l'Europe et de dénoncer les traités européens existants. Qu'il y ait une coopération entre les pays européens, nous le souhaitons. Et nous souhaitons évidemment que, parce que les moyens modernes aujourd'hui, les moyens techniques modernes le permettent, que les Français puissent se promener, circuler à travers le monde et aller ailleurs en Europe pour leurs études ou pour leur travail. Ça pose évidemment aucune difficulté. Nous voulons simplement qu'il y ait un contrôle de nos frontières. Vous savez, la France, elle a rayonné et commercé à travers vers le monde quand elle avait la maîtrise de ses frontières, peut-être même beaucoup plus qu'aujourd'hui. Nous sommes aujourd'hui, à cause de l'austérité imposée par Bruxelles, à cause d'une monnaie qui n'est pas évaluée en fonction de l'état de notre économie, beaucoup moins en situation de commercer dans le monde peut-être qu'il y a quelques décennies, alors que nous avions réellement la maîtrise de nos frontières, parce que le dogme de l'Union européenne, la libre circulation des capitaux, des biens et des personnes, dessert tous nos intérêts, dessert, met à mal notre identité, menace
bon,
les Français dans leur sécurité.
Vous avez répondu, Arthur, il pourra continuer à circuler, mais l'Europe n'existera plus comme elle existe aujourd'hui.
Oui, parce qu'on parle évidemment
de,
depuis le début de cette émission des contraintes notamment institutionnelles auxquelles le Front National est confronté pour aller au pouvoir, mais il y a aussi ce plafond de verre dont parle Marine Le Pen sur les idées. Il y a encore des idées sur la sortie de l'euro, par exemple. C'est encore dans les sondages extrêmement fermés pour les Français, sur la peine de mort notamment, sur la préférence nationale. Les Français ne sont absolument pas prêts aujourd'hui à suivre le Front National sur ce terrain-là.
Mais je crois qu'ils le sont de plus en plus, et surtout, je crois que ça apparaît de plus en plus comme vital. Je crois, alors, ça nécessite de faire de la pédagogie, d'expliquer aux Français qu'on peut très bien vivre mieux sans l'euro. l'euro sous sa forme actuelle. En tout cas, nous voulons transformer l'euro monnaie unique en euro monnaie commune pour retrouver notre liberté monétaire et pour que la monnaie soit un outil au service de l'économie, alors qu'aujourd'hui, on a une économie qui
top,
est...
Top,
qui...
top, le mot de la fin, excusez-moi, voilà, bon, je vous coupe la parole, non, je suis vraiment désolé, le mot de la fin.
On a une monnaie qui subit un euro fort qui sert aujourd'hui les intérêts de l'Allemagne au détriment de tous les autres pays de la zone euro.
Le mot de la fin, Nicolas Lebourg, parce que vous n'étiez pas avec nous en studio et c'est pas facile comme ça d'intervenir.
Merci. On a là le cœur du problème. Il y a 80% des sondés qui pensent que cette question de la sortie de l'euro n'est pas crédible. Mais surtout, le problème, c'est que c'est l'électorat UMP qui n'y croit pas. Cet électorat UMP, il y en a une bonne partie aujourd'hui qui serait prêt pour des alliances, qui est prêt sur les thèmes identitaires, prêt sur les questions de la sécurité, mais qui n'est pas du tout d'accord sur le programme économique. Et là, on voit tout le problème du Front National pour arriver à construire. On parlait tout à l'heure d'une majorité. Construire une majorité, c'est pas la même chose que construire des votes avec des voix qui viennent de la gauche, de la droite, mais une majorité, elle doit être plus cohérente idéologiquement. Et c'est aujourd'hui un peu le cœur de la question.
Merci beaucoup Nicolas Lebourg, merci à tous d'avoir participé à cette émission. On vous retrouve évidemment demain. Merci à Raphaël Rousseau, Maxime Ingrand et Hélène Langlois qui étaient ce soir à la technique. Bonsoir Catherine Evin.
Bonsoir.
On vous retrouve dans quelques minutes, juste après le flash de 20h, pour parler de...
Je vous emmène sur le Mississippi en 1920. Restez avec moi.
On reste avec vous, Catherine.